Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
En guise d'introduction de cet épisode, je cite l'épigraphe du livre de Céline D'Artagnan, « Dans le noir, on voit mieux ». Dans le noir, on voit mieux. Dans le silence, on entend, et dans l'immobilité, le mouvement. Ce poème philosophique résume le voyage initiatique de Céline D'Artagnan, un voyage au bout d'elle-même. Cadre supérieur dans un grand média français, elle a longtemps fait le grand écart entre sa vie professionnelle et ses apprentissages de chamane. Depuis son enfance, elle perçoit le monde invisible. Suite à un rêve et à de nombreuses épreuves, elle a dû se rendre au berceau du chamanisme mongol pour se rassembler et enfin accepter qui elle est. C'est une vie pleine, riche, une vie difficile aussi, où l'ancrage et le lâcher-prise sont fondamentaux. Aujourd'hui, elle œuvre à la sauvegarde des savoirs ancestraux par le biais de son association et prône l'animisme comme nouvelle façon d'être au monde pour connecter le vivant et respecter enfin cette terre qui nous a vu naître. À vos écouteurs, destination le monde quantique en compagnie de Céline D'Artagnan. Bonjour Céline, je suis ravie de te recevoir.
Bonjour.
On va parler de ton livre qui s'appelle « Dans le noir, on voit mieux ». On va y venir à cette phrase quand même parce que moi, elle m'a vraiment interpellée. Et je voudrais revenir sur ton enfance. Donc, ta maman est d'origine berbère algérienne, ton papa arménien. Dans la famille, vous avez une conscience de l'au-delà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce qui se passait dans ta vie quand tu étais enfant ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a, alors de par ma mère surtout, on a une conscience de quelque chose qui est invisible. Et ça, c'est assez tôt. C'est assez tôt parce que déjà par le lieu où on vit, un lieu qui est habité. Et au début, alors petite, je le ressentais. Puis après, je me suis forgé ma propre opinion. Et à un moment donné, je me suis même dit que ma mère, elle disait n'importe quoi. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait bien quelque chose, donc ça agissait toutes les nuits. Toutes les nuits, ce locataire invisible touchait les cheveux de ma mère, on n'entendait les pas. Il y avait des choses qui se passaient dans la chambre, les ordinateurs qui s'allumaient, les poignées de porte qui grinçaient. Et puis ma mère nous a donné aussi cette conscience un peu mystique, un peu aussi d'une espèce de spiritualité assez ouverte par le fait qu'elle-même priait énormément. Elle priait 7 à 10 fois par jour. Et puis, elle s'est ouverte à plein de lectures, dont des lectures avec Dr. Murphy, pour ceux qui connaissent, qui est un médecin américain qui a beaucoup écrit et inventé des prières sur des thématiques comme le travail, la famille, la santé. Ma mère a toujours œuvré pour nous partager ce qu'elle lisait, c'est-à-dire que les mots sont puissants et donc il faut faire attention à ce qu'on dit.
Est-ce que vous aviez peur de tout ça ?
Oui, il y avait une forme de peur parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait derrière. C'était une peur très le bien, le mal, la lumière et l'ombre. Alors que bon, en devenant chamane et en expérimentant par moi-même, on se rend bien compte que c'est un peu plus complexe que ça et ce n'est pas si yin et yang que ça d'ailleurs. Et ça ne fait pas si peur. Mais oui, il y a eu des moments où on était toutes les trois à la maison et on entendait le moindre bruit, on sursautait, et on l'avait tout entendu. Il y avait des trucs un peu bizarres, mais voilà. Et elle nous a toujours emmenés sur ce chemin lumineux. Donc, non, je la remercie pour ça. C'est une vraie ouverture, je trouve, quand on est enfant.
Je suppose qu'avec la diffusion de ton livre, il y a beaucoup de gens aussi qui doivent t'écrire et t'appeler pour te parler de leurs propres expériences. Qu'est-ce que tu peux leur dire, peut-être pour rassurer, parce que effectivement, quand on touche au monde de l'invisible, la première des choses, on veut se refermer. On veut refermer ce chapitre. Si on ferme la porte, on ferme aussi une très belle porte, comme tu l'as dit en introduction. Derrière, il y a des choses fabuleuses, en fait, quand on passe une étape.
Alors, beaucoup de monde, oui, ça fait peur à beaucoup de monde. La première des choses, c'est que ça fait peur parce qu'on est en Occident et qu'on a appris en Occident, effectivement, cette séparation entre le bien et le mal, c'est très judéo-chrétien. Sauf que il faut se projeter dans un autre espace quand ça arrive, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, toutes ces émanations sont des émanations, pour mon, en tout cas de ce que je comprends, avec le temps, qui sont du quantique vivant. Quand on commence à voir des choses ou à sentir des choses, après, ça dépend de la finalité, qu'est-ce qu'on va en faire. Si c'est pour converser, etc., il faut sans doute converser toujours avec la même chose, entre guillemets. Et pour ça, il faut ouvrir un canal de communication dans le quantique et toujours prendre soin de ce canal pour discuter toujours avec la même personne et s'assurer que vous avez toujours la même personne au bout du fil. Parce que vous ne la voyez pas, mais elle est là. Si vous voulez aller plus loin, c'est là où moi je t'emmènerais. Parce qu'aller plus loin, c'est-à-dire c'est aller découvrir d'autres perspectives de comment est constitué le monde et commencer à engendrer des discussions. Et ça, c'est plutôt le job de chaman. Donc ça, c'est plutôt notre job d'aller très loin dans la matière quantique vivante et d'aller dans des discussions poussées avec cette matière. Donc bon, là, c'est là où je mettrais un bémol. Mais si c'est resté sur un premier cercle de conversation, je conseillerais d'appeler toujours la même personne. Et si on le sent du fond du cœur que tout va bien, let's go. Si ça ne va pas, on arrête. Si ça ne va pas, on prie, on se protège. Parce que de l'autre côté, voilà, il ne faut pas être naïf ou crédule, il faut quand même se protéger, on n'y va pas sans un parachute. C'est bien aussi de faire une petite prière avant de démarrer. Dans les cérémonies, d'ailleurs, j'ai toujours au démarrage une petite prière pour demander que la cérémonie se passe bien. Parce que je ne sais pas où je vais atterrir dans ce quantique vivant. Je vais me retrouver propulsée dans différents espaces. Et donc, je demande à ce que ce voyage, en tout cas, soit le plus safe possible.
En lisant ton livre, on le voit, tu n'as pas choisi, enfin, ce n'est pas toi qui as décidé d'être chamane, ça, il faut le répéter aussi aux personnes. Ce n'est pas parce qu'on va prendre de l'ayahuasca ou commencer à prendre des psychotropes que tu ne veux pas prendre d'ailleurs. Hein. On va en parler. On ne choisit pas d'être chamane, on nous choisit. Et je voudrais revenir sur ton parcours parce que tu as quand même été un petit peu voir ce qui se passait en Amazonie avant d'être appelé par le chamanisme mongol. Est-ce que tu peux revenir sur tes premières expériences?
Je ne suis pas allée en Amazonie, mais c'est l'Amazonie qui est venue à moi. J'ai démarré effectivement ces expériences, on va dire, d'ayahuasca, si on peut appeler ça des expériences, parce que je n'ai pris que une cuillère à café ou deux, donc ce n'est pas vraiment une expérience en soi, de l'ayahuasca à l'étranger. Mais tout de suite, en fait, j'ai saisi que j'avais un vrai dialogue avec cette plante, que les plantes, effectivement, apprennent des choses et nous apprennent des choses, et que je n'avais pas besoin de ça pour communiquer avec mon environnement. Et ce qui se vérifie ensuite plus tard, ce que je n'ai peut-être pas écrit dans le livre, parce que j'ai fait depuis beaucoup de cérémonies, et ce que j'ai pu vérifier plus tard en parlant avec des arbres, en parlant avec des arbres-pierres, des pierres, des fleuves, voilà. Il faut faire attention effectivement sur l'ayahuasca, parce que si on prend un verre, on a été prouvé que les plantes psychédéliques, enfin, qui ont des expériences psychédéliques, c'est comme si elles nous mettaient une VHS, elles poussaient cette cassette, et on a tous cette expérience du spirituel, qui est une fausse expérience du spirituel. C'est très neurologique ce qui se passe à ce moment-là et ce qui se joue. Alors que lorsqu'on rentre en transe non induite et sans psychotrope, on rentre dans un univers qui est quantique vivant, qui est de l'ordre du spirituel, parce que c'est extraordinaire et qu'on ne peut pas l'expliquer. Et d'ailleurs, je n'ai pas accès à tout, ça serait fantastique, mais non. Et j'apprends petit à petit en fonction des multiples voyages dans lesquels je vais dans cette matière. C'est comme aussi les transes induites. À un moment donné, c'est neurologique, mais la limite s'arrête là, puisque c'est le spirituel n'est pas aussi pareil. On ne rentre pas dans un quantique pour un voyage, etc. Et même là, je dirais qu'attention, il faut faire attention et se protéger.
Oui, c'est intéressant dans ton parcours parce qu'on voit que malgré toute ton enfance, là où tu as baigné, tu restes quand même très terre à terre.
Oui.
C'est vrai, tu sais les limites des choses, tu fais très attention là où tu mets les pieds. En fait, tu t'es pas laissé embarquer malgré tes expériences parce qu'à un moment, donc, tu vas en Californie, tu fais des expériences, mais tu restes toujours dans la limite de ce que tu peux être. En fait, tu as une très grande conscience de toi.
Ben ça, je dirais, en tout cas, je dirais merci à mes amis. Parce que c'est important, je trouve, d'avoir un feedback et d'écouter, d'avoir une écoute profonde et une écoute attentive de son entourage. Et moi, les premières fois, mes amis avaient peur. Ils disaient, oh là là, elle va décoller, elle est illuminée, ça y est, elle est partie, ou j'ai eu peur que tu sois partie. Donc ça, même ça, je le reçois et je l'intègre et je me dis, ok, qu'est-ce qui a pu faire penser qu'à un moment donné, j'ai fait peur à mes amis ou voilà. Donc tout ça, je le conscientise, Et puis, il y a derrière aussi beaucoup de discussions avec ce fameux moine frère Marie sur comment asseoir sur une base et un terreau assez solide toutes ces expériences, parce qu'effectivement, le chamanisme ou l'animisme, c'est que de l'expérientiel et en plus, c'est de l'extrasensoriel. Donc, ce n'est pas une expérience du type je vais dans un train à la foire du trône et je fais le grand 8. C'est amplifié. Donc, c'est vraiment extraordinaire ou extrasensoriel. Donc, c'est comment j'intègre ça. Et ça a été dur, hein, parce que par Frère Marie, on a eu beaucoup de conversations sur comment on réintègre des expériences aussi fulgurantes et incroyables et revenir dans le quotidien sans perdre pied ou sans décoller, quoi. Et ça a été des grandes discussions qu'on a eues. Je crois que c'est mon psychanalyste, Frère Marie.
Oui, parce que tu as vécu des expériences d'extase.
Oui, une expérience d'extase que Frère Marie a vécue aussi il y a 30 ans aussi. Et c'est assez marrant, je l'expliquais la dernière fois, ces expériences d'extase. En fait, la cosmogonie, ce sont tous les mythes qui racontent comment s'est créé le monde. Dénominateur commun de ces mythes, c'est un arbre cosmique, un arbre sacré. Et le jour où j'ai reçu mon costume et mon tambour, j'ai vu cet arbre cosmique et je suis montée, je l'explique. Je suis montée, j'étais la sève, et l'arbre a commencé, et puis j'étais dans la cime de l'arbre, et ça a été complètement luminescent et vibrant, et c'est la rencontre du grand tout, je me suis sentie soulevée de terre. Et je racontais ça à Frère Marie qui me dit, écoute, j'ai vécu la même chose moi il y a 30 ans avant de devenir moine, j'ai vu aussi cet arbre de vie. Et c'est marrant parce qu'on a le même arbre dans Avatar, qui rassemble effectivement toute la communauté autour de cet arbre, qui rassemble les anciens, la sagesse de ce peuple. Et chez les chamans Bouriates, eux, alors c'est un peu plus dogmatisés hein, chez les Bouriates, parce qu'ils apprennent carrément des prières par cœur pour les transes. Mais quand on devient chaman, il y a tout un truc qui s'appelle le chanar, où on doit physiquement et symboliquement pendant la transe monter en haut d'un bouleau, d'un arbre. Donc, et on retrouve ça vraiment un peu partout. Donc, je pense que c'est sûr que l'état d'extase, en tout cas, il y a quelque chose de connecté avec cet arbre, qu'on peut expliquer d'ailleurs, parce que les arbres ont super important sur le culte des arbres, et il y a toujours eu ce culte, donc on a toujours eu des bois sacrés, des forêts sacrées en Afrique, un peu partout. Et pourquoi? Parce que l'arbre, par sa stature, a des feuilles. À un moment donné, ses feuilles tombent, mais elles se régénèrent. Donc il y a une espèce d'immortalité, et on considère que l'arbre rejoue la naissance du cosmos. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a un arbre cosmique et qu'il est lié effectivement à la naissance du monde. Presque la dernière fois, je me suis dit, ok, donc les arbres, comme en plus ils sont votifs, parce que ça existe encore au Japon, on noue des petites bandelettes de vœux sur ces arbres qui existaient jusque au Maghreb avant. Hein. On en retrouve un peu en Turquie, mais ça a disparu au Maghreb. On en a en Mongolie sous la forme de hovo, donc ce sont des bâtons, des branches avec des foulards de prière. Et je le dis en fait pour les chamans, parce que sur mon costume, on accroche ces mêmes foulards de prière. Donc, du coup, je suis moi-même votive, parce que lorsque je rentre en transe, je rejoue la naissance du monde avec le bruit du tambour, parce que la naissance du monde est un bruit, est une vibration. Et voilà, la boucle est bouclée avec cette espèce de son et cette espèce d'arbre. Après, je ne pourrais pas tout expliquer, parce que parfois, il y a des choses qui sont inexplicables en français. Mais bon, si un jour j'arrivais à l'expliquer à l'écrit, ce serait déjà génial.
Oh, mais déjà, c'est très beau. C'est vrai qu'il y a un passage dans ton livre où tu dis que tu portes les vœux de tous tes amis.
Oui.
Tu es carrément le canal des vœux.
C'est ça. C'est quelque chose de très au sens propre, comme au sens figuré, parce que je les porte sur mon costume. Donc les hommes sont à droite, les femmes sont à gauche, les enfants sont sous mon aisselle, donc en protection. Et au moment où j'embarque et que je vais rentrer dans un monde quantique, j'embarque symboliquement aussi tout ça avec moi. Et comme les gens embarquer leurs vœux sur les arbres parce que symboliquement, ça embarque sur la renaissance constante du cosmos sur les arbres. Donc, c'est assez beau finalement parce que c'est toujours tout en finesse et en symbolique. C'est là où ça ne fait pas peur quand on a toute cette symbolique derrière.
Oui, il faut aller chercher le lumineux, tout est sacré. Et j'aimerais bien que tu nous dises la différence entre animiste et chamanisme.
À avoir et pas avoir, mais en fait, je me dis que souvent, je dis, ah bah tiens, on pourrait être tous animistes, mais pas tous chamanes. On peut être tous animistes, et c'est parce que il y a 370 millions d'animistes à travers le monde, du Japon, en Afrique, etc. Il y a encore beaucoup de cultures animistes, et d'ailleurs, les cultures animistes sont à la pointe des enjeux de demain, parce que elles ont une façon d'être au monde qui comprend que la posture est une posture d'égal à égal avec un caillou, avec un arbre, avec un animal. Par exemple, la tribu des Bishnoi en Inde sont véganes, qui se sont enchaînés à des arbres il y a des siècles pour éviter qu'ils soient justement sciés, parce qu'un arbre est sacré, et même à une posture donc beaucoup plus noble qu'un humain. Et donc, je pense qu'en ça, on peut tous l'être. Ça dépasse même l'écologie. Donc, c'est vraiment avoir une posture d'égal à égal et avoir un espèce de ce que j'appelle dans le livre, je ne sais plus si je le dis, mais un espèce de code éthique interne et de se dire qu'on respecte tout, c'est-à-dire les rivières, l'air, le moindre caillou, la plante, et qu'on demande la permission à chaque fois qu'on prélève. On est d'égal à égal. Et ça, c'est possible, en fait. Et en fait, ça nous permet aussi de récupérer notre extrasensorialité qu'on a perdue ici en Occident, parce qu'on n'est pas du tout immergé dans ce bain-là. Et en fait, à force de travailler, le fait qu'on soit immergé en pleine nature et qu'on reprenne cette position d'égal à égal, c'est à ce moment-là que s'ouvre ce qu'appelait Mircea Eliade le numineux. Donc ce moment, moi, que j'appelle le vertige, où on comprend qu'on est un petit rien parmi un grand tout. Donc c'est ça qui est aussi beau, c'est reprendre conscience de sa place. Voilà. Et le chamanisme, bah, y a des choses que je ne pourrais pas expliquer aux gens. Être animiste, c'est simple, tout le monde peut l'être. Le chaman, moi, par exemple, hier, on nous posait une question sur le soin. Et moi, je ne pourrais pas apprendre aux gens, par exemple, à rêver. Comme on est chaman de lignée, on rêve dans la famille. Alors il y en a un qui est oracle, donc toutes les nuits il rêve de choses incroyables et donc il rapporte au sein du clan ce dont il rêve. Pareil, ma mère rêve de soins et elle m'apprend à travers ses rêves, et parfois on a des rêves communs, des rêves qui se répondent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en onirique que je pourrais pas apprendre aux gens. Et puis pendant les cérémonies, lorsqu'on part en cérémonie, donc dans ce monde quantique complètement vivant, il se passe des choses. Et là, soit on me montre des choses très concrètes, comme le cas de Chloé, où on me dit il va falloir enterrer les pieds de Chloé. Donc, et là, le lendemain, je me mets à partir chez Truffaut, acheter du terreau, complètement fou. Et puis parfois, ça se passe dans la matière directement, et c'est là où je répare directement dans la matière, parce que la matière est vibration et son. Et donc, à ce moment-là, la voix va être hyper utile pour réparer, parce que la voix va avoir une certaine vibration qui va venir harmoniser l'autre vibration qui était complètement en eux. Et pareil avec le tambour. Alors après, moi, je ne rentre pas en transe avec le tambour, il intervient après, mais je fais d'abord tout ce travail que je peux faire en amont, en vision, en voix, et puis à la fin, avec le tambour.
Je voulais seulement revenir, je vais expliquer aux auditeurs. Chloé, c'est une amie à toi qui a un cancer vraiment très grave, très fulgurant. Et tu as en vision le fait qu'il faut effectivement mettre ses pieds dans la terre pour qu'elle puisse retrouver de l'énergie. Et donc, tu vas dans cet hôpital et tu sens qu'elle va pouvoir s'en sortir.
Je me suis toujours dit, c'est très bizarre de faire ça. Et en fait, en regardant quelques années plus tard The Last Shaman sur Netflix, je vois ce jeune homme qui est en perdition psychologique et qui va au Pérou et qui, à un moment donné, le chaman péruvien l'enterre. Il lui dit, écoute, pour te récupérer tous tes morceaux de toi, je suis obligé de t'enterrer. Il le met, donc il creuse un trou, il le met dans une espèce de linge et il l'enterre. Il reste, je crois, 1 ou 3 jours comme ça. Et là, je suis restée choquée parce que je me suis dit, ah oui, d'accord, donc je ne sais pas si fou que ça ce que j'ai fait. Il y a vraiment un truc.
Ce qui est important aussi de dire, c'est que
Tu es une guérisseuse, mais tu fais pas de miracle. Tu es là aussi pour guérir l'âme, et parfois ces personnes partent. En fait, tu vas pas forcément guérir tout le monde d'un
Counselor,
cancer. Ça, c'est
counselor.
voilà, exactement. Il y a un
Counselor, c'est
exemple.
l'heure. Et puis, des fois, effectivement, où les quelques rares fois où j'ai œuvré pour qu'il se passe quelque chose en soutien, c'est plus une béquille. Mais finalement, quand c'est l'heure, la personne part. Donc, il faut savoir aussi dire aux gens que bah, non, on ne prend pas la cérémonie ou non, on ne fera pas, parce que, ou on ne fera pas de soins, parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure.
Pour en revenir à ton parcours, il y a eu des rêves qui t'ont amené à aller en Mongolie. Alors, tu rencontres un premier maître avec qui tu vas rester plusieurs années, qui s'appelle Gansouk.
Frank Souk, ouais.
Rangsouk, oui, je n'ai pas dit.
Ouais, les G, ça se prononce. Ouais, les G et les KH, c'est Rang.
Et lui, en fait, tu vas t'abandonner à son enseignement de façon tout à fait confiante. Tu t'es dit à un moment, je lâche prise, tant pis. Comment ça s'est passé dans ta tête?
Oui, alors j'avais lâché prise déjà il y a un petit moment pour, sur des choses que. En fait, j'ai lâché prise aux États-Unis quand j'ai dessiné ce fameux dessin et qu'on m'a ressorti le même dessin dans un autre cahier et je n'avais jamais vu, il était identique. À ce moment-là, je me suis dit, OK, il n'y a plus rien à comprendre. Et avec Rang Souk, en fait, justement, je m'abandonne parce que je me dis, bah, en fait, la chose la plus simple, c'est d'apprendre à la source, de manière orale, avec quelqu'un qui vient d'une tribu, etc., etc. Pas dans un livre ni rien. Donc, je vais faire cet effort de faire des allers-retours, je vais faire cet effort d'apprendre. Et puis, Rang Souk a eu peu d'élèves étrangers, parce qu'il est toujours un peu, il a toujours été un peu sur la réserve. Il sait que culturellement, il y a une vraie fracture. Donc, même si voilà, il y a eu un peu des dissensions à un moment donné, moi, je le considère comme mon vieil oncle. Et à chaque fois que je passe à Oulan-Bator, on est super content de se voir. Mais c'est vrai que même avec Nketouya, c'est un des premiers sujets qu'on a abordé, c'est ce gap culturel. Donc déjà, c'est de se mettre dans une posture où bah, on n'est pas colon. Hein. Je ne suis pas là pour les coloniser et aller coloniser leur savoir. Ils me font ce cadeau. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais moi de l'autre côté? Donc je ne fais rien ici en Occident sans avoir demandé au préalable, alors aujourd'hui à Nketouya, mais je ne fais rien sans avoir demandé au préalable à Nketouya qui demande à son clan. Et si je suis là, d'ailleurs, on a une discussion tous ensemble. Donc, je parle de mes projets. Parfois, si je ne suis pas à Oulan-Bator, là, ça fait 2 ans, j'écris des lettres assez longues que je fais traduire, ou que j'ai un ami qui parle anglais donc, et mongol, donc qui traduit à Nketouya et qui lui expose où j'en suis étape par étape sur tous les projets. Et qui dit oui, non, et on en discute. Mais je fais rien sans la communauté. Je m'abandonne parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et que ils ont eu tellement de répression, eux, avec le chamanisme, avec le communisme dans les années 90, que c'est précieux.
D'ailleurs, tu le dis, pour toi, le plus important, c'est la tradition, de conserver cette tradition pure.
Ouais, les deux, ils ont été assez direct et franc là-dessus. Hein. Rang Souk, c'est toujours on reste traditionnel et Nketouya, c'est pareil, c'est on reste traditionnel. Donc, c'est ne jamais dévoyer ce que j'apprends et ne jamais ce qu'on appelle en sociologie faire une transmission préfigurative. C'est-à-dire arriver ici en Occident et me dire, OK, bah, peut-être que si j'ajoute ça ou si je teste ça dans un autre contexte, non, jamais. Jamais parce que j'ai une parole. Et jamais parce que, alors après intellectuellement pour les Occidentaux, si je tire le fil juridique, jamais parce qu'en 2011, on a signé, nous, la France, un protocole qui s'appelle le protocole de Nagoya, qui dit qu'on doit rétribuer toute utilisation des savoirs ancestraux. J'utilise ces savoirs ancestraux et je les rétribue à travers mon association. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient participer à une cérémonie, cet argent sert à une mission de sauvegarde. Donc la boucle est bouclée, voilà.
C'est une belle conscience politique.
Aussi, ouais.
Oui, mais non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens enfin, qui sont vraiment au courant des accords de Nagoya, on est d'accord?
Déclaration de la Terre-Mère, il y a pareil, il y a 10 ans. Nagoya, c'est personne l'applique alors que quelqu'un, par exemple, qui est tradit praticien au Cambodge, dans une forêt primaire, qui vous montre une plante, qui vous dit à quoi elle sert et comment il faut s'en servir, ça fait gagner au laboratoire pharmaceutique 3 à 4 ans de R&D. Et ça, c'est 3 à 4 ans qui sont précieux. Il le rétribue jamais. Donc après, c'est voilà, c'est tirer le fil. Et ça, ce truc-là, je ne l'ai pas eu seul. C'est Frère Marie qui, à chaque fois, me répète exactement toujours cette même phrase qui est « Ok, mais pour quel but ?» Donc à chaque fois que moi, je m'aventure dans une piste de réflexion, Il m'arrête et il me dit, OK, dans quel but? Et ça me fait réfléchir, ça me fait tirer d'autres liens, ça me fait reculer sur certains arguments que j'avançais qui sont finalement stériles. Donc c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui contrebalance en Occident, mais aussi qui est très spirituel et religieux. Ça aide beaucoup, je dois dire.
Alors, tu as choisi cette voie et c'est une voie quand même d'ascète. Il y a quand même beaucoup de, entre guillemets, on va dire, contraintes où tu es obligé d'avoir une hygiène de vie vraiment impeccable, de retourner en Mongolie régulièrement. Et à un moment, tu dis la solitude du chaman, tu parles de ça. Et tu t'es même posé la question si tu n'allais pas rejoindre une communauté
Oui,
chrétienne, religieuse,
religieuse, oui.
alors que tu n'as t'as pas été baptisée, je suppose.
Moine chaman, Kung Fu Panda, même combat.
C'est
Oui, c'est
vrai.
vrai. Alors, mais c'est vrai que la solitude du chaman, parce que quand on conscientise vraiment le travail que ça demande, on se sent seul. Parce qu'on se rend compte que, en fait, peu de gens réfléchissent de cette manière-là et utilisent les savoirs de cette manière-là. Donc, au début, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, quand on se sent seul comme ça, on se dit, bah, on va rejoindre une communauté. Puis, je me sentais bien, effectivement, dans cette ascèse. Je me sens bien dans le fait de me lever à 5h30, de prier, je vis dans un endroit ultra. La maison dans laquelle je vis est ultra monacale. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de télé. Donc, voilà. Je me suis dit, bah, moi, ça m'irait bien de prier 7 fois par jour, etc., etc. Et puis finalement, on se dit, ben non, c'est un peu comme les startups. Moi, je viens de ce milieu, effectivement, de la tech, du digital, et on crée des startups parce que, à un moment, ou des sociétés, tout simplement, parce qu'il y a un besoin ou il y a un manque. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, j'ai un manque, j'ai donc un besoin. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à la constitution de l'ACA, qui est l'Association des cultures animistes. Et à réfléchir sur la façon dont elle devait fonctionner, qui a été quand même bien inspirée de tout ce que font les moines cisterciens, pour justement que ça ne soit pas commercial.
Est-ce que
Et
tu peux
bien
nous en
trouvé.
parler de tout ça, de ces projets-là que tu mets en place?
L'ACA, c'est l'Association des cultures animistes, donc c'est animisme.org qui explique ce que c'est l'animisme et surtout ça positionne le chamanisme en tant que service cultuel. Donc du coup, c'est pas un job. Ça le positionne comme un service culturel, c'est-à-dire qu'il y a des services culturels qui sont proposés publics, donc c'est des solstices, prospérité, protection, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en Mongolie. Je ne le ferai pas effectivement jusqu'au bout comme on le fait en Mongolie, parce qu'il faudrait aussi qu'on. Ou peut-être, je ne sais pas, mais comme on honore tout ça sur 3, 4, 5 jours, on tue des moutons, bon, il y a tout un truc. C'est des cérémonies qui rassemblent aussi. Il y a tout un contexte, parce que ce sont des cérémonies, mais c'est aussi tout un clan qui se rassemble, qui viennent de loin, qui partagent un moment ensemble sur plusieurs jours. Et puis au-delà des cérémonies, les hommes vont créer des. Comme des mini JO, donc il y a les hommes qui vont faire de la lutte, les enfants qui vont faire une race là avec des chevaux, voilà, il y a tout un truc. Puis à la fin de la cérémonie, comme on a sacrifié des moutons, on les a bouillis, nous les femmes, on s'est occupé des viscères et ça a une vraie signification parce que nous enfantons, donc nous sommes capables de toucher le sang. Les hommes ne vont que dépecer. Et derrière, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a œuvré, toutes ces cérémonies, on va faire une grosse cérémonie où on va mettre tous les os, plus les foulards rouges qui sont des foulards de prière qui symbolisent le sang. On fait un énorme feu qui ramène en fait tout ça à la terre. Et on la remercie de cette manière-là. Donc tout ça, il y a vraiment du symbolisme derrière que si le clan se rassemble dans un environnement. Enfin voilà, il ne faut pas décorréler les choses. Et alors, il y a des cérémonies culturelles publiques, privées. Donc ça, c'est quand on a des questions un peu plus privées. Je suis en train de voir pour mettre en place aussi tout ce qui est ancestralisation. Donc ça, c'est un service plutôt, c'est une cérémonie qui est faite en Afrique, qu'on connaît ici en Occident sous la forme de la constellation familiale. Mais en fait, sa vraie origine, c'est la cérémonie d'ancestralisation. C'est-à-dire que lorsqu'un parent, généralement c'est un grand-parent, décède, il passe du statut de défunt à ancêtre. Et pour qu'il passe de ce statut de défunt à ancêtre, on va attendre quelques temps, généralement 1 mois ou 2. Et ensuite, on convoque l'ensemble de la famille, le chaman ou le devin, et on convoque l'ancêtre. Et on voit ce que l'ancêtre a à dire à l'ensemble de la famille. Et c'est là que se jouent effectivement parfois des messages, des choses qui s'échangent. Alors j'ai fait un mariage aussi. J'ai été prêtre animiste, je sais beaucoup comment on dit, mais voilà, j'ai marié des gens. Donc là, c'est aussi pareil. C'est un moine cistercien qui m'a aidé à structurer tout le squelette de la cérémonie. Et puis comme beaucoup, 100% des gens de l'assistance ne connaissaient pas ce que c'était, c'était aussi le moyen d'expliquer chaque chose, pourquoi on faisait un culte des arbres, pourquoi il y avait des écharpes de prière en coton, etc., 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 pour pas que les gens se sentent perdus ou disent que c'est folklorique ou n'importe quoi. Ça a eu beaucoup de succès. Voilà. Donc ça, c'est l'ACA, c'est l'Association des cultures animistes. Et derrière, il y a une mission qui est chaque centime qui rentre à la CA, c'est pour des missions de sauvegarde. Donc, comment on sauvegarde des savoirs ancestraux? C'est en envoyant des ethnobotanistes ou des anthropologues sauvegarder des gens qui ont des savoirs mais qui vont se perdre. Et pourquoi on le fait? Parce que ces savoirs qui se perdent, avec eux, perdent la biodiversité. Et ça a été prouvé que les deux étaient liés.
Ouais, c'est passionnant, c'est vraiment un cercle vertueux
Exactement.
où tu veux vraiment remettre le sacré au sein de l'Occident, parce que c'est vrai que
Exactement, on sacralise tout, chaque geste appelle un autre, qui appelle un autre dans le but d'être sacré, parce qu'aujourd'hui, chaque geste qu'on fait, en Occident ou ailleurs, détruit la Terre. Si j'essaye de prendre des médicaments, finalement, je vais essayer de me soigner, mais quand je vais uriner, je vais excréter des principes actifs dans l'eau. L'eau va être contaminée, même si, y a des stations d'épuration. Et maintenant, on voit des stations d'épuration fleurir aux abords des hôpitaux, parce qu'on commence à comprendre que tous ceux qui font des chimiothérapies, on est peut-être en train de boire tous ces trucs de chimio. Et en fait, plus on construit pour réparer, et plus voilà, ça casse. Donc c'est là où j'essaye à chaque fois, à chaque geste, chaque réflexion est menée pour que ça soit un cercle vertueux, comme tu l'as si bien dit.
Et surtout une conscience, parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on oublie de penser, chaque chose qu'on fait a une conséquence.
On est en manque, on est en manque. Là, ça cartonne le chamanisme, etc., parce qu'on est en manque de tout ça. Mais il faut à chaque fois remettre les choses. C'est est-ce que je ne fais pas une appropriation culturelle? Comment je peux effectivement aborder ça sans effectivement faire d'appropriation culturelle ou comme on appelle de biopiraterie? Qui peut m'aider à ne pas justement faire cette appropriation et comment je peux l'utiliser? Ouais, c'est vrai qu'on réfléchit pas à toute cette conscience en remontant à chaque fois les degrés sur dans quel but je le fais.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut se rappeler de la phrase, enfin de la question de Frère Marie, dans quel but?
Dans quel but?
Et il y a un autre, quelque chose que tu nous donnes dans ton livre et que j'ai noté, et je vais l'utiliser, c'est la question en fait des cinq pourquoi.
Ah oui.
Hyper intéressant parce que, comme tu dis, quand il y a quelque chose qui est très inconfortable, il faut y aller. Et là, tu te poses la question des cinq pourquoi. Est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer?
Alors ça, c'est un truc que j'utilisais au boulot, chez TF1, etc., parce que j'ai été donc planeur stratégique. Donc planeur stratégique, c'est un métier qui est au croisement de la sociologie, de la psychologie, au service du consumérisme, voilà, des consommateurs. Donc pour les marques, j'ai travaillé pour une cinquantaine de marques en France pour essayer de décortiquer les comportements de consommateurs et surtout des comportements de non-achat. Pourquoi je n'achète pas? Ou d'achat? Pourquoi j'achète de cette manière-là? Et ce qui est marrant, c'est qu'on a cette technique, et je crois qu'il vient du Japon, qui est des cinq pourquoi. C'est pourquoi tu ne vas pas dans telle parfumerie? Parce que ça sent fort le parfum. Et pourquoi ça sent fort le parfum? Parce que ça me fait mal à la tête. Pourquoi ça te fait mal à la tête? Parce que ça me rappelle ma grand-mère qui mettait trop de parfum. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi. Hein. Et donc, je me suis dit, parfois, ce truc des cinq pourquoi est assez utile dans ces moments de panique et d'angoisse, en mettant un peu à plat, en disant, attends, 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 on sait toujours que ces angoisses, il y a toujours, c'est comme les couches d'oignon, il y a toujours un truc sous-jacent. Et au lieu de plonger directement en deep dive dans ce truc sous-jacent, je vais éplucher angoisse par angoisse. Et puis finalement, en plus, en épluchant, je me dis, bon, ça, c'est pas tant une angoisse que ça. Puis j'arrive au cœur du truc et j'arrive à le régler d'une meilleure manière. Parce que c'est plus rassurant de se dire, d'ailleurs, ces cinq pourquoi je le fais sur une question qui est toujours d'actualité, sur le temps. J'ai toujours l'impression de manquer de temps, comme beaucoup, je pense. Et c'est de se dire, OK, si c'est qu'une question de temps, je vais me l'offrir. Donc voilà, après, on met des choses en place sur comment j'arrive à accéder à plus de temps.
Je voudrais qu'on revienne sur ton ancien travail. Pour moi, c'est comme si c'était un grand écart, on a dû te le dire souvent.
Oui.
Comment t'arrivais
Oui.
avec toute cette conscience du sacré, de cet amour de la planète, à quand même travailler sur la consommation? Comment t'arrivais à te dire, j'ai quand même une utilité à faire ce travail? Est-ce que tu posais cette question déjà? Enfin, je pense que
Oui,
oui.
c'est le ouais, non, c'est le grand écart, ça c'est sûr. Ça, c'est le grand écart déjà, parce que entre le fait d'avoir un day job dans une entreprise qui était très sympa, mais effectivement, avec tout ce cheminement qui, à un moment donné, bon, qui n'a rien à voir avec son job du quotidien. Donc ça, c'est vraiment, on a l'impression d'être schizo ou d'être séparé ou splitté en deux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est voir beaucoup de marques. Alors, les marques font des efforts. Hein. Je travaillais, je me rappelle, avec Unilever, où ils essayaient de mettre en place beaucoup, beaucoup d'actions. Et c'est vrai qu'on voit à la télé et en publicité les produits, mais il y a quand même des actions qui sont faites en arrière-plan pour les femmes, pour l'eau, pour la planète, etc. Même si ce n'est pas grand-chose, les actions sont quand même là. Il y a toujours une directrice ou un directeur marketing, il y a toujours quelqu'un qui a, ou quelqu'un du RSE qui a ce déclic de nous faire travailler sur ces sujets. Et je pense que d'ailleurs, ces directeurs ou directrices marketing RSE pourraient encore tirer le fil un peu plus loin avec les cultures animistes, parce qu'il y a tellement de clés et d'outils qui seraient intéressants à apposer sur les entreprises. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on se dit, bon, comment on fait? Enfin voilà, au travail, non, il n'y avait pas que moi, hein, il y avait des gens qui refusaient de travailler sur certaines marques, hein. Ouais, je ne peux pas hésiter, mais sur certaines marques, j'ai quelques collaborateurs, collaboratrices, collègues, etc., qui ne voulaient pas travailler sur certaines marques parce qu'on avait des convictions. Donc, non, non.
Ça rassure quand même.
Ouais.
C'est une grosse boîte. Mais c'est surtout aussi comment on fait pour... Parce que là, c'était pour pousser à la consommation, on est d'accord, la publicité. Alors même si les marques reversent à des fondations, il y a quand même on est quand même dans un système de consommation. Est-ce que tu crois que le monde est prêt quand même à changer à l'heure actuelle?
C'est compliqué. Si tout le monde faisait comme la marque Veja, c'est-à-dire pas de pub, ça serait génial. C'est une vraie question que je me pose pour ma propre marque que je vais lancer, qui est Bo, qui est donc une marque de compléments alimentaires à base de plantes médicinales, où je me dis est-ce que je fais de la pub ou non? Parce que c'est pareil. Là, il va falloir que j'ai tout un cheminement sur OK, mais quelle pub et pourquoi, dans quel but? Et je ne sais pas si tout le monde est prêt, je ne pense pas. C'est compliqué de faire bouger des plaques tectoniques. C'est lourd. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais bon, si chacun fait une petite part, c'est toujours ce qu'on se dit, hein. Pierre Rabhi le dit, il y a le colibri d'ailleurs, hein, son mouvement. Mais bon, si chacun pouvait faire cette petite part, d'ailleurs, je me demande même si à un moment donné, il ne faudrait pas immerger des grands patrons dans des tribus, au sein de peuples premiers, à passer des rites de passage. Les rites de passage, c'est toujours en plus dans une nature hyper wild, hyper sauvage. Et ça serait là, en fait, c'est d'aller chercher le top et d'aller les immerger totalement pour que ensuite tout soit infusé des pieds à la tête. Ça serait ce qu'on dit en top-down. Ça serait génial.
C'est une super idée, je pense. Parce que
Ouais.
ces hommes qui sont au pouvoir ont certainement déjà en eux une puissance, mais qui est mal orientée pour certains. Et effectivement, de la retrouver, de la passer dans la nature, et en fait, la connexion, c'est pour ça qu'on va voir les peuples racines, c'est justement pour qu'ils nous apportent quelque chose dans ce monde, pour qu'ils nous transmettent ce savoir, qu'il y en a
À
champ.
partir du moment où, effectivement, à partir du moment où on immerge quelqu'un qui est aux manettes d'eux, je pense que si on arrive à l'immerger et à lui faire passer ce rite de passage et qu'il connecte comme on arrive à connecter les peuples premiers, les chamans, on voit plus jamais le monde de la même façon. Plus jamais.
Bon, il n'y a
Et
plus
alors
qu'à,
après, ça.
Céline. Il
Il n'y a plus qu'à. Alors
n'y a
après,
plus
est-ce qu'ils quittent
qu'à.
leur job et ils font autre chose? C'est là, nous, on ne veut pas qu'ils quittent leur job, on veut qu'ils changent les choses dans leur job.
Mais je pense qu'ils auront cette conscience, justement, et ils resteront. Parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Peut-être
Ouais,
certains
non.
changeront, deviendront peut-être chamans, sait-on jamais, mais d'autres resteront à leur poste et puis changeront
C'était
les
un
choses.
truc dont on avait parlé, ça, avec Matt Matters, d'ailleurs, qui est le producteur de Koh-Lanta. C'était une idée qu'on avait eue en se disant pourquoi on n'immerge pas des patrons d'entreprise au sein des peuples premiers. On en avait discuté, c'était rigolo.
Avec ou sans caméra? Sans quand même.
sans ben, il faut cheminer sans parce que ouais.
Oui, autrement, il y a trop l'image qui est là. Et je voudrais revenir à la dernière question, le dernier chapitre, mais j'ai vraiment envie que tu me parles de l'Algérie, de tes retrouvailles
Oui.
avec cette terre, parce que l'Algérie, c'est un pays fascinant, on connaît très peu. C'est très, très beau ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous parler de l'endroit où tu étais?
L'Algérie, c'est magnifique. Il y a quelques années de ça, j'ai eu la chance en fait de faire partie d'un groupe qui a été monté par un jeune start-upper algérien qui habite à Berlin, qui s'appelle MSIR, c'est le groupe qu'il a monté. Donc c'est Maghreb Social Innovated Retreat. Et donc tous ceux qui faisaient partie de ce groupe avaient un sujet start-up sur l'innovation sociale. Et le point commun aussi qu'on avait, c'était qu'on était tous plus ou moins algériens. Donc moi j'ai des origines, j'ai pas le passeport ni rien. Et on est parti effectivement dans le Tassili Niger. Donc le Tassili Niger, c'est une chance incroyable parce que c'est sud-est de l'Algérie, c'est pas très loin de la Libye, pas très loin du Niger. Ce ne sont pas des zones qui sont recommandées par la France, mais c'est un des plus beaux déserts du monde avec le désert de Libye parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'arts rupestres. C'est un désert en plus avec des rochers, enfin, c'est magnifique. Et j'ai eu la chance d'y aller, déjà d'aller à la rencontre de mes origines, parce qu'il y avait les Touaregs. Et puis j'ai eu la chance aussi que lorsqu'on a fait cette retraite ensemble, on était une quinzaine, chaque soir, quelqu'un devait partager quelque chose au groupe. Et il y a eu ce fameux soir où c'était mon tour. Donc on avait déjà discuté au préalable avec l'organisateur. Donc j'avais acheté un alachot qui est un tissu, effectivement, Touareg. Et on a fait cette cérémonie. Alors j'ai choisi le lieu et le lieu a été bien senti puisque c'était dans une crevasse d'une falaise et dans cette crevasse je n'avais pas vu qu'il y avait un art rupestre donc je l'ai fait dater par un ami qui travaille sur ces sujets et en plus qui a été au Tassili Niger donc il m'a dit ça date entre 8 et 12 000 ans et puis c'était en baissant le téléphone parce qu'on était dans le noir j'ai vu que c'était encore un site qui était encore en activité, parce qu'il y avait des libations de sang, de lait, il y avait des os de mouton, des vers brisés, donc c'est quelque chose qui a encore lieu, qu'on fonde ce désert d'Algérie ou du désert du Sahara. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et c'est assez intéressant parce que ça a rejoint la thèse de ce fameux Jean-Clotte, Jean-Clotte qui a découvert la grotte de Chauvet et qui a porté cette thèse et qui porte cette thèse. Qui dit que l'art pariétal n'est pas de l'art pour de l'art, mais bien des anciens sites chamaniques rituels en activité. Et ça a été le cas, et ça a été marrant, parce que c'est vrai que dans ce parcours, à chaque fois, je m'amuse avec Warsaran, qui est mon chauffeur, et je te dis où on s'arrête, et où est l'art rupestre, et je te dis si c'est un site qui a été en activité et ritualisé ou non. Et je pouvais raconter toute l'histoire. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire des cérémonies. Voilà, il y en a plein en Ariège. C'est blindé en Ariège. Il y en a plein à Lascaux. Donc, il faudrait faire des cérémonies. Et alors, c'est marrant parce que je l'ai refait avec un archéologue dans le sud-est de la France où j'habite. Parce que où j'habite, il y a un site de l'âge de fer. C'est un ancien village. Et il m'a montré une grotte souterraine où étaient enterrés les gens. Et donc, je lui ai montré exactement comment les gens passaient les corps et comment ils ritualisaient, parce que, effectivement, à ce moment-là, j'ai eu les visions, j'ai eu les scènes. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut aller, en tant que chaman, aller voir un passé qui est aussi présent donc, et réexpliquer comment ça se jouait.
Donc là-bas, tu te
Voilà.
retrouves dans le désert algérien et tu te
Oui.
retrouves à faire ta cérémonie. Et là, il se
Cérémonie.
passe quelque chose
De fou.
d'incroyable.
Parce que je les mets tous en rond, en cercle autour d'un feu. Le feu est tout petit, minuscule. Puis je me dis, bon, j'ai pas mon tambour, j'ai rien, j'ai juste un petit outil chamanique avec moi. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, je leur dis, vous allez voir, vous allez frapper des mains et vous allez suivre un rythme. Et c'est pas vous qui allez le dicter. Et tout le monde aura le même rythme. Et c'est ce qui se passe. C'est je rentre en transe, tout le monde frappe des mains et sans le vouloir, ils frappent tous au même rythme. Plus en plus fort, moins fort. C'est comme une espèce de vague et c'est jamais dissonant, quoi. Ils sont vraiment en unité. Et quelqu'un me rapporte que au moment où ça commence, d'ailleurs, le feu s'amplifie et ça projette mon ombre le long de cette grotte à côté de l'art rupestre. Et eux, ils vivent un truc. Alors moi, j'ai les yeux bandés, je vois rien. Mais eux, ils vivent un truc extraordinaire parce qu'en plus, il y a la Voie lactée. Il y a le sable, c'est la nuit, il y a le feu, il tape des mains. Moi, je parle en proto-langage, donc je ne comprends rien à ce que je raconte. Enfin, voilà. Et il y a un truc complètement fou qui se passe à ce moment-là. tellement fou que j'avais dit en plus au Touareg, dans 1 heure pile, vous venez nous chercher. Et au moment où j'enlève effectivement ce qui me bande les yeux, je vois les phares arriver des 4x4 et on vient nous chercher. On revient au camp. Puis là, il y a un silence, parce que les Touaregs, c'est quand même un peuple hyper heureux, qui papote, qui chante, etc. Puis là, je les vois qui m'écoutent, et puis j'en ai un des plus anciens, qui me glisse à un moment donné, mais pourquoi tu ne nous as pas invités? Parce que nous, on connaît. Et donc, c'est un peu le non-dit, mais voilà, ça règle un peu cette histoire de est-ce qu'il y a encore des choses en activité? Oui, c'est secret, et ça perdure effectivement sur ces. Voilà. Puis, ça, moi, ça me conforte aussi dans mes origines, ça me conforte que voilà, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. D'ailleurs, cette nuit-là, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression d'être rétro-éclairée au-dessus du front et que quelqu'un s'amuse avec sa lampe torche, alors que pas du tout. Donc,
Oui,
voilà.
tu as senti une lumière au-dessus de toi toute la
Ouais.
nuit. Et tu t'es reconnecté aussi à une de tes, tu appelles ça
À
ton
une
équipe
de
invisible,
mes. Oui. Alors, quand
tes
on est
guides.
chaman, on a des esprits ancêtres. Avec le temps, on a les noms. Donc, le premier, j'ai eu le premier nom assez rapidement. Le deuxième, j'ai eu le nom, mais je n'arrivais pas trop à définir sa forme. Je savais que c'était une femme. J'avais son nom, mais d'où, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai reconnecté, durant cette cérémonie, avec cette peinture rupestre qui représentait une petite femme et qui lidait des hommes. Et c'était elle, et donc ça a refait cette connexion et ça a confirmé ce deuxième esprit ancêtre du fin fond du Tassili n'Ajjer, qui est une femme qui appartient à la naissance de la Terre. Donc c'est bizarre de dire ça, ça fait presque conte de fées, mais qui, elle, va avoir une fonction dans les cérémonies très douces, presque de maternant, de prière très soignée, douce. Alors que l'autre va être beaucoup plus combatif, donc va rentrer plus dans la matière quantique et va dénouer des choses, voilà, et même appeler le quantique un peu plus bas, s'il faut, parce que c'est avec ce que je travaille aussi. Il y a la lumière, il y a le bas, ils sont complètement différents, ils ont des formes différentes et ça va être beaucoup plus bagarreur. Il n'y a pas de négociation possible. La sommation, c'est qu'une fois, et si on ne comprend pas, ça se dispute. Donc voilà. Donc c'est un espèce de yin et de yang que j'aime beaucoup, que j'apprécie d'ailleurs.
Et j'aimerais bien revenir à ton titre, Dans le noir, on voit mieux. Je vois avec aussi le sens de parfois, il faut aller dans nos profondeurs, au fond de nous, même dans le sombre, pour pouvoir mieux comprendre la lumière, c'est ça?
Bah, même dans le sombre, mais c'est surtout les fois où en fait j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait voir au-delà de ses propres yeux, c'est en les fermant et en étant dans l'obscurité. Et l'obscurité n'est pas si vide que ça, au contraire. Et c'est presque aussi une métaphore. C'est pour celui qui peut voir dans l'obscurité, verra. Je pose aussi un truc dans la Bible ou j'en ai un qui dit un truc pareil, mais voilà, pour celui qui a envie de voir dans un espace où il n'y a rien à voir. Effectivement, il y a à voir. Pour celui qui a envie d'entendre dans un espace où il y a silence, il y a une écoute profonde de choses. Et pareil pour le mouvement. Le mouvement, c'était une réflexion où je dis tout au début du livre, et dans l'immobilité, il y a le mouvement. Et on le voit avec ces 22 frères qui vivent sur l'île Saint-Honorat. Et on se dit, bon, eux, ils restent sur leur île depuis le 4e siècle, ils ne bougent pas. Et en fait, ils sont en mouvement perpétuel, spirituel, intellectuel, et le monde entier vient les voir. Donc, il y a aussi un mouvement, je trouve. Un mouvement de voyage, voyage intérieur, ou même un voyage réel. Bah,
Merci
de rien.
Céline. Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.